Alors ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme. Enfin, merci de m'avoir écouté, enfin d'essayer de m'avoir écouté, d'essayer de m'écouter. Ça me fait penser à John Wesley, le fondateur du méthodisme, qui a prêché 40 000 sermons dans sa vie, parfois 15 par semaine. Donc on est loin du compte. Mais c'est la dernière ici à Cannes. Je vais peut-être prêcher encore en France et en Navarre, dans le beau royaume de France et de Navarre, mais c'est la dernière ici à Cannes, et c'est, je dois le dire, un peu étrange. Et c'est surtout délicat, la dernière prédication. On a envie d'y mettre le paquet, que ça soit, comme on dit aujourd'hui, impactant, que ça reste gravé dans les mémoires. Mais en même temps, on sait que quand on essaye de faire ça, on se prend les pieds dans le tapis de la vaine gloire. Alors on va faire simple. Simple dans le sens d'essentiel. Et on va parler ce matin, et cette dernière prédication sera sur l'Évangile. C'est assez central, n'est-ce pas, pour les chrétiens protestants évangéliques libres, mais évangéliques que nous sommes, de parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle. C'est le sens du mot grec « euangelion » qui veut dire « bonne nouvelle » et que nous avons translittéré en « Évangile ». La bonne nouvelle. Et pour ce faire, un passage du Nouveau Testament est venu à moi par l'intermédiaire d'une tierce personne qui murmure à l'oreille, non pas des chevaux ni des ânes, mais de son mari, et qui nous parle de l'Évangile. Trois fois le mot Évangile dans ce passage. Alors il y a beaucoup de passages de la Bible qui parlent de l'Évangile, déjà dans l'Ancien Testament. Mais nous nous tournons vers la lettre que Paul a écrite à... Non, pardon, j'ai fait signe, mais c'était pas le bon. Dans 2 Timothée, la deuxième lettre, ou épître, ou missive, que l'apôtre Paul écrit à, on va dire, son enfant spirituel qui s'appelle Timothée, qui est jeune, enfin jeune, on l'est jusqu'à 40 ans à l'époque, donc il a moins de 40 ans, au jeune Timothée qui est responsable de l'église d'Éphèse. Alors qu'il vient de Grèce, il est en Asie Mineure, en Turquie actuelle. Certains l'ont visité, les ruines d'Éphèse, ici. Et il est responsable, peut-être un des premiers pasteurs, puisqu'il n'est pas d'Éphèse, il a été mis à Éphèse, un des premiers pasteurs de l'histoire. Et c'est, semble-t-il, le dernier écrit de Paul, parce qu'il est en prison pour la seconde fois, et cette fois, il ne va pas s'en sortir, il va être exécuté dans la prison à Rome. De Timothée, la deuxième lettre à Timothée fait figure de ce testament, et nous allons le lire ensemble. C'est pourquoi, dit Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, versets 6 à 12, c'est pourquoi je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi, en signe d'identification. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour to euangelion, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. Et dans l'original, on met Christ avant Jésus. C'est pas Jésus-Christ, c'est Christ Jésus. Pour mettre l'accent sur son onction, sur son envoi, sur son œuvre. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et c'est pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Alors, comparaison n'est pas raison. Je ne suis pas l'apôtre Paul qui est en prison et qui est proche de la mort. Je suis juste Eric qui part à la retraite, enfin qui s'approche de la mort aussi, mais... Et vous n'êtes pas non plus une bande de Timothée tout juste sorti de l'adolescence. Et ce n'est pas mon testament spirituel. Mais il y a dans ce passage de la parole de Dieu, une parole de Dieu, une parole qui a été inspirée par Dieu, et nous le croyons ici, et je le crois dur comme fer. Il y a des choses qui nous concernent tous et tous ensemble. Et j'insiste sur ce tous ensemble. Et je crois que j'ai essayé en tout cas de le faire dans toutes les prédications, de bien montrer que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, parfois dans la même galère, mais dans le même bateau. Et que le prédicateur n'est jamais en surplomb par rapport aux autres, par rapport à vous. Qu'il est en définitive le premier destinataire des prédications. Je suis le premier destinataire de mes prédications. Et toute la semaine de préparation, je les vis. Et nous sommes tous ensemble concernés par ces passages. Vous comme moi. Alors, dans ce passage, il est question de flamme à ranimer. C'est pourquoi je t'encourage à ranimer la flamme. Alors, le mec, bon, avec les incendies de cet été, ça tombe un peu mal, mais il est avec son lance-flamme et de ranimer la flamme. Et on pourrait se demander pourquoi Paul parle de ranimer la flamme. Est-ce que Timothée serait éteint? Est-ce que Timothée serait au creux de la vague? Serait-il déprimé, au bout du rouleau? Et s'il est au bout du rouleau, à combien du bout? Et certains commentateurs bibliques que l'on consulte semblent refuser à Timothée la possibilité d'être en perte de vitesse. Il dit non, ce n'est rien du tout, tout va bien, madame la marquise, tout va toujours bien. Hein, quand on est serviteur de Dieu, tout va toujours bien. Quand on est chrétien, tout va toujours bien. Et comme il était impossible pour un chrétien d'avoir des passages à vide, comme s'il était impossible pour un chrétien d'avoir des passages à vide, ou voire même des états d'âme. Tout cela est faux. Et je suis bien placé pour le savoir. Où j'ai eu mon passage à vide, et je vous remercie encore pour cette période pendant laquelle, en 2020-21, vous m'avez soutenu et encouragé. On le voit aussi avec Élie le prophète, qui à un moment après avoir été à l'apogée sur le mont Carmel, à un moment de dépression post-adrénaline incroyable, et il se met sous un genêt et il dit « Prends ma vie, Seigneur, car c'en est trop. C'est too much. » Et le Seigneur vient dans ses tourments, au profond de son âme, et se manifeste à lui dans un son doux et subtil. Dieu est subtil et doux à l'égard de ceux qui, peut-être comme Timothée, passent à travers un moment difficile. Alors, on ne connaît pas l'intensité de ce temps difficile pour Timothée. On ne sait pas exactement où il en est. Est-il sur le point de retourner chez sa maman, à Lystre? Est-il dans le désert, comme Élie? Ou est-il en plein burn-out, comme vous dites ici en France? Out? Bon, bref. Alors, on ne sait pas trop. Mais il semble, en tout cas, qu'il a besoin d'être encouragé. Il est jeune, mais ça fait déjà longtemps qu'il est en service. Il est un peu de santé fragile, quand même. Et il est responsable d'une église, et ça peut être intimidant. Et surtout, Paul est en prison, prisonnier, à Rome. Et tant que la persécution venait de certains groupes religieux, on pouvait gérer, mais là, ça vient de l'Empire romain. Et l'Empire romain, quand il s'y met, ça peut être intimidant. Et de fait, il est question de timidité dans le message de Paul à Timothée. Ne sois pas timide. Et il semble que ça soit là où la flamme vacille. Et Paul l'encourage à ne pas se laisser intimider. Ne sois pas timide ou timoré pour le service de l'Évangile ou dans ton service pour l'Évangile. Timide, timoré ou, un mot absolument magnifique en français, pusillanime, hein, que vous pouvez servir à l'occasion d'un apéritif. Tiens, pusillanime. Mais la définition de pusillanime, c'est qui manque d'audace, qui craint les risques et les responsabilités. Et c'est peut-être pour Timothée. Et c'est peut-être pour nous en cette rentrée 2026. Ne faisons-nous pas preuve de pusillanimité? Alors, bien sûr, il y a toujours des raisons pour être timide. On peut trouver le monde intimidant, et il l'est. On peut trouver les responsabilités pesantes, et elles le sont parfois. On peut traverser des circonstances particulièrement difficiles, et tôt ou tard, on va y passer. Et tout cela peut nous rendre timides. Il n'y a pas si longtemps, un homme chrétien éprouvé dans sa santé, et puis qui était dans une période où il subissait la loi des séries. Problème de santé, puis problème là, problème là, problème là. Et il m'a écrit un texto où il me disait « Éric, je remets en question la pertinence de ma foi. » Et je lui ai répondu, j'ai pas dit « Mais enfin, déjà !» Je lui ai dit « C'est normal. » C'est normal d'avoir des crises. C'est normal d'avoir des éclipses dans sa foi. Mais le Seigneur, par l'intermédiaire de Paul, nous appelle à ranimer la foi, la flamme. Alors, il est intéressant que Paul ne propose pas à Timothée une nouvelle expérience spirituelle. Un truc, un septième degré dans la vie spirituelle. Pour avoir l'extase, mais il va lui dire quelques mots de réanimation en utilisant la pédagogie du souvenir. Et au verset 6, quand il dit « je t'encourage » ou « je t'exhorte », on pourrait traduire littéralement par « je te fais te ressouvenir ». Et un petit peu de grec ne fait jamais de mal à personne, c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit à l'origine, c'est « anamimnesko ». Je te fais te ressouvenir ou de faire l'anamnèse. En médecine, faire l'anamnèse, c'est faire l'histoire se rappeler l'histoire du patient. Faire l'anamnèse. Et de te souvenir de ceci et de cela pour ranimer la flamme. C'est souvenir comme étant des braises sur lesquelles il faut souffler pour ranimer la flamme. Et j'en ai pu en discerner trois dans le texte. La première, se souvenir de l'action de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alfred Kuhn, cet Alsacien évangélique qui a écrit 150 livres, après sa retraite de l'éducation nationale, nous dit pour ce verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Et certains ont noté que j'aimais bien ce mot enthousiasme, n'est-ce pas Mathias? L'enthousiasme, Dieu à l'intérieur. Et j'ai une petite image là, c'est le match pour la troisième place de la Coupe du Monde. France-Angleterre, qui a fait 6-4, un truc comme ça. Hein? 6-4. Et les chaînes françaises n'en ont pas beaucoup parlé, mais à la fin, il y a des joueurs français, Upamecano, parce que c'est difficile, j'ai du mal à le prononcer, Mateta et Lacroix qui ont rejoint d'autres joueurs anglais, Saka qui joue à Liverpool, Eze aussi. Ils sont rassemblés au milieu du terrain et ils ont prié ensemble. Et moi, j'étais paf. Et j'ai trouvé, alors, je suis pas fan des démonstrations religieuses pendant les sports, parce que c'est un peu la surenchère. Mais là, c'était un peu différent. Ils s'étaient battus pendant 90 minutes. Ils avaient marqué 10 goals. Ils s'étaient taclés à qui mieux. Et puis après, les Anglais et les Français, l'entente cordiale, plus que ça, l'entente spirituelle, priaient au milieu du terrain. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon esprit, un tellement bon esprit. Et Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit le passage. Alors, quand on parle d'esprit, est-ce qu'il s'agit de l'Esprit Saint avec un grand E ou de l'Esprit de l'homme avec un petit E? Eh bien, comme on dit souvent, les deux mon commandant ou les deux mon capitaine, on peut tout simplement penser qu'il s'agit d'une qualité intérieure que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a chanté tout à l'heure, nous façonne, nous transforme de gloire en gloire pour devenir à l'image de Christ et développer en nous un caractère particulier. En tout cas, le Saint-Esprit ne fait pas dans le défaitisme et la timidité. On pourrait dire que ces choses-là, c'est pas le genre de la maison. On peut trouver de tas de bonnes raisons pour être timide, mais ce n'est pas en tout cas ce que Dieu a en vue pour nous. Ce n'est pas le genre de la maison. Le genre de la maison, c'est la force, l'amour, la sagesse, et ça, c'est la sagesse, et ça, c'est être dans l'esprit. Genre de la maison, c'est d'abord le premier, s'il te plaît, Jean-Christophe, voilà, un esprit de force, de puissance, de dynamique. Et c'est toujours lié, quand on parle de puissance, de force, au Saint-Esprit. L'Esprit qui ressuscite Jésus d'entre les morts. C'est un esprit de résurrection, un esprit de vie, un esprit de puissance. Et ça, c'est l'esprit maison. Et Paul le dira aux chrétiens de Rome, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu ». Pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas une puissance qui sert à faire de l'esbrouf ou du spectaculaire ou à faire le malin devant les autres, mais c'est une puissance à salut, une puissance qui transforme et qui fait passer de la mort à la vie, la puissance du pardon qui libère. Et c'est cette puissance-là qui est le genre de la maison. Et puis, le genre de la maison, c'est aussi l'amour. On a beaucoup parlé d'amour, on parle beaucoup d'amour dans l'Église, mais plus j'avance, plus je vois que ce qui ressort dans l'Église, j'ai ma bouteille là, merci. Merci, je te le revaudrai au centuple. Et quand on parle d'amour, et quand je lis la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il n'est pas question de ressenti, « Oh, je le sens » ou « Je le sens pas », ni même d'émotion quand elle est là ou quand le ressenti est là, c'est bien, mais qu'il s'agit toujours d'un amour volontaire que l'on pose et qui nous pousse vers les autres. Et je me souviens d'une phrase de Frédéric Marchal, qui était dans la mission Vie et Famille, qui nous a fait un week-end d'église à Bruxelles, dans les temps immémoriaux, dans les années 90. Il est venu avec sa femme et pendant tout un week-end, il nous a parlé de couple, de famille, et il nous a dit une phrase qui m'est restée, « Dieu place en nous une disposition à aimer qui se manifeste pour autant qu'on en fasse un objectif. » Et c'est vrai pour toutes les relations, en particulier dans le couple, mais des relations dans l'Église, des relations avec nos voisins, avec nos collègues, ou les relations avec nos clubs de bridge, de théâtre, de chorale. L'amour se manifeste pour autant qu'on en fasse un objectif. Et puis, le genre de la maison, c'est aussi la sagesse, ou on pourrait traduire la modération. Et on a l'impression que Paul cherche à maintenir l'équilibre, la puissance que donne l'Esprit, oui. L'amour qui se donne à tous, oui. Mais avec aussi la sagesse dans tout cela. L'équilibre dans tout cela. Il y a un texte de l'Ecclésiaste qui est un livre de la sagesse qui est dans la Bible, qui nous dit d'une façon un petit peu étrange, ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas trop saint. Parce que le déséquilibre ou l'excès peut faire vaciller ta flamme ou peut te faire perdre ta flamme en même temps que l'équilibre, de la sobriété, la puissance, l'amour, la sagesse. Voilà donc l'esprit maison. Et toi, mon cher Timothée, tu es dans cette maison. Tu n'es pas dans la maison de la timidité ou du défaitisme ou du chacun pour soi, mais tu es dans celle de la puissance de l'Évangile, de l'amour inconditionnel et de la sagesse en toutes choses. Tu es dans cette maison-là, Timothée. Et vous l'êtes aussi, vous, Canois ou des environs. Nous sommes dans cette même maison, avec le même esprit, maison, et quand on est dans cette maison, on peut vivre comme tel, et on peut être dans l'esprit, et avec un grand E. Ce souvenir de l'appel de Dieu, cette deuxième braise, ce deuxième souvenir, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre projet et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et on a là un condensé théologique, hein, il faudrait le lire plusieurs fois, mais Paul ne cherche pas à en mettre plein la vue à Timothée, mais simplement l'aider à se souvenir qu'il a été appelé à une entreprise grandiose. Yvonne a parlé de splendeur, de rayonnement, d'éclat. On y parle dans ce texte, Paul parle de choix, de projet de Dieu, qui est là de toute éternité. En Jésus-Christ, c'est pas le plan B. Jésus-Christ, c'est pas le plan B. Il est là, ce plan de toute éternité. Et il est là pour mettre en lumière la vie et l'immortalité. C'est pas rien. Bien sûr, il y a la pression du monde, de l'immédiat qui nous intimide, il y a la lourdeur du quotidien qu'il faut assumer, il y a tout cela qui fait vaciller notre flamme, mais il vous faut ranimer la flamme et nous rappeler de l'appel de Dieu à servir une cause qui transcende tous les autres, qui touche à la réconciliation de l'humanité et de la création tout entière. C'est un truc cosmique, l'Évangile. Vous savez que si je regarde parfois la Coupe du Monde de football, je suis plus un féru de rugby, un sport de voyous joué par des gentlemen, alors que le football, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous. Et lors de la Coupe du Monde à Paris en 2023, j'étais tout fou, j'ai regardé tous les matchs à la télé, et en plus nous avons les dieux du stade. Bon, on n'a pas gagné, mais on a les Dupont, Ramos, Ntamack. Il est beau ce Ntamack, je trouve, et vraiment, voilà, je trouve le rugby passionnant. Mais quand on compare le rugby à l'Évangile, il n'y a pas photo. Et il faut comparer, et il faut faire cet exercice de comparaison et se demander vraiment si on peut dire, écrire ou lire que le rugby a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Non, même le commentateur le plus zélé, le plus enthousiaste ne peut pas le dire sans être décrié. Il n'osera pas une telle exagération pour le rugby, mais on pourrait essayer avec d'autres choses, la gastronomie, la décoration d'intérieur, les jeux vidéo, la musique, même classique, les réseaux sociaux. Ça ne marche tout simplement pas. Seul l'Évangile de Jésus-Christ fait resplendir la vie et l'immortalité, et c'est à cette cause-là que vous avez été, que nous avons été appelés tous ensemble, chacun avec ses dons, chacun avec sa passion particulière. Chacun dans son contexte particulier. Alors, permettez-moi une petite parenthèse. Quand on parle de l'Évangile, de quoi s'agit-il? Ranimer la flamme du service de l'Évangile, se souvenir de l'appel de l'Évangile. Oui, ok. Mais il me semble important de préciser un peu. J'entends parfois dire que l'Évangile, c'est s'aimer les uns les autres. Ou que l'Évangile, c'est aimer son prochain. Ou, ce qu'ont un esprit de synthèse dirait, l'Évangile, c'est l'amour. Ou l'Évangile, c'est être généreux dans la vie. Ou l'Évangile, c'est vivre les valeurs du royaume telles que Jésus en parle dans son sermon sur la montagne. Et tout cela, est biblique, est vrai, mais ce n'est pas l'Évangile. C'est dans l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Ce sont des conséquences de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, qui fait la différence, qui donne et qui fait resplendir la vie et l'immortalité. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, qui pose des questions sur naître de nouveau. Et Jésus lui répond, et c'est inscrit là, à votre gauche, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'Évangile. Et puis, quand Jésus en parle aussi dans l'Évangile de Marc, par l'évangéliste Marc, au chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il paye de sa personne. Et un peu plus loin, Romains 5, 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et on en parle souvent lors des baptêmes, la rencontre entre Philippe l'évangéliste et l'eunuque, le haut fonctionnaire éthiopien qui est sur son char, qui revient de Jérusalem, qui lit un texte de l'Ancien Testament et qui ne le comprend pas. Et justement, il y a Philippe qui monte sur son char, qui lui explique, et il est dit dans la parole, dans Actes 8, 35, et à partir de ce passage, et c'est Ésaïe 53, dont on parlera tout à l'heure pour la Sainte-Seine, il lui annonça la bonne nouvelle, le Euangelion de Jésus. Et que dit Ésaïe 53, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ? Il nous dit qu'un mouton, comme l'a dit Yvonne tout à l'heure, qui est parti comme à l'abattoir, innocent, mais il a pris sur lui nos fautes, il est mort pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans toutes ces paroles d'évangile que vous avez là, le plein cœur de l'évangile, il y a des mots qui... Et je reviens au fonctionnaire éthiopien, et c'est ça qui transforme sa vie. C'est ça qui lui fait demander le baptême. C'est ça qui lui fait poursuivre sa route joyeusement, comme nous-mêmes, nous poursuivons notre route, comme nous avons vu des baptisés ici poursuivre leur route joyeusement. C'est ça, ce fait que Jésus, cet homme, cet agneau dont on a parlé, que l'on a chanté tout à l'heure, est mort pour nous. Et ces deux mots sont tellement importants. À la croix, il prend sur lui tout ce qui nous séparait de Dieu, le péché, le mal personnel, quoique de quelque manière dont on l'appelle, où il prend sur lui, j'aime bien cette expression, la morsure du mal, le mal qui nous fait mal. Il la prend et il paye à notre place pour que nous ayons la vie. Il goûte la mort pour que nous puissions vivre de sa puissance. Et c'est là que réside la puissance de l'Évangile. Dieu lui-même s'est donné pour moi, pour m'assurer un avenir éternel dans sa grâce. Et je peux dès lors vivre une vie nouvelle dans l'amour du prochain, dans un décentrement par rapport à moi-même et mes propres intérêts. Je peux dès lors œuvrer à la préservation de la planète, à aider les personnes en difficulté autour de moi, faire le bien tous azimuts, parce que j'ai trouvé en Jésus-Christ la libération de moi-même, que j'ai été sauvé en Jésus-Christ. Et c'est ça véritablement qui fait la joie du salut. Tout commence par l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et je peux vivre après toutes ces conséquences de l'Évangile, toutes ces orientations, ces directions, plus que des directives que me donne l'Évangile. Je peux les vivre parce que j'ai vécu cette joie du salut, parce que Christ est mort pour moi. Et durant ces 8 ans et ces 175 prédications, je vous ai parlé d'un homme pas à chaque fois quand même, mais d'un pasteur new-yorkais qui s'appelle Timothy Keller. Et c'est un pasteur que j'aime bien parce que c'est en même temps, c'est un érudit, mais il est fidèle à l'écriture et il nous parle de la Bible d'une manière nouvelle et rafraîchissante. Et voilà ce qu'il dit sur l'évangile. L'évangile, c'est ceci. Nous sommes plus pécheurs et imparfaits en nous-mêmes que nous n'avons jamais osé l'admettre. Et pourtant, dans le même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'avons jamais osé l'espérer. Et Timothée Keller est décédé en 2022, en plein... Alors, il est mort aux États-Unis, mais nous étions réunis au synode à la Costette et on nous a fait l'annonce le samedi matin. Il est mort à l'âge de 72 ans d'un cancer du pancréas et toute sa vie, il a été un recentreur sur l'Évangile. Et en 2015, il a écrit un pavé qui s'appelle « Une église centrée sur l'Évangile » de 500 pages. Je voulais pas amener parce que c'était trop lourd. Et c'est un beau livre que je vous recommande à lire avec modération, avec progression. Et il met l'Évangile au centre comme source de vie de l'Église, pas un moralisme gentillet et orgueilleux à la fois. Il faut être comme si, fais pas ci, fais pas ça. Ni un égocentrisme qui se préoccupe exclusivement de son bien-être personnel, qui sont peut-être le moralisme et le bien-être personnel des bonnes nouvelles, mais qui ne transforment pas vraiment. Mais il nous parle de l'Évangile, Timothée Keller, à toutes les étapes de la vie d'Église et de la vie chrétienne. Et j'en cite quelques-unes et je vais en mettre une en exergue. C'est l'Évangile dans la prédication, évidemment, dans la formation biblique, oui. L'Évangile au cœur des groupes de maison, oui. L'Évangile au cœur de l'accompagnement spirituel, exactement. Et puis, le dernier, last but not least, l'Évangile au centre de nos conversations informelles. Voilà une idée qu'elle est bonne. Que notre Église, que l'Église de Cannes, reste une Église centrée sur l'Évangile. Je prie pour cela et j'ai confiance qu'elle va le rester centrée sur cet Évangile, que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ soit au cœur de la vie de cette Église. Le troisième souvenir à remuer, et je vais aller très vite pour ce dernier point, il va à la fin, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur, et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors, c'est pas très fun, parce que Paul s'en va, mais je pense quand même que Timothée a été encouragé en lisant ces lignes, écrites par son père spirituel, qui est au banc de l'Empire, qui est condamné à mort, qui est considéré comme un paria, et qui écrit « Je suis considéré comme un malfaiteur, mais je n'en ai pas honte, je ne suis pas confus, je ne suis pas intimidé, car je sais en qui j'ai cru, et je sais en qui j'ai placé ma confiance, et je sais que c'est là où réside le sens de ma vie et de mon espérance. Et j'ai la conviction, dit Paul, que cela va m'accompagner jusque dans l'éternité. » Un témoignage poignant de Paul. Dans quelques semaines, dans quelques mois, il est déjà condamné, il va mourir. Et qu'a dû prendre Timothée au cœur? Et il a dû se dire, c'est vrai qu'il est là-bas en prison, moi je suis à Éphèse, lui il est à Rome en prison, et il reste plein de confiance et de conviction, et moi à Éphèse je resterai timide, timoré, pusillanime, que nenni, je ranime illico presto, la flamme de l'Évangile en moi. Et je ne sais pas si la mise en activation de l'exemple de Paul peut nous aider à ranimer notre flamme, parce que Paul, c'est loin quand même, puis on l'a pas connu personnellement, mais il y a d'autres exemples pour nous, plus proches dans le temps, et j'ai les miens, et vous avez les vôtres, et je vous ai parlé au cours de ces 175 prédications de Valentin, de ce Congolais qui a reçu une balle à Lubumbashi, une balle dans la moelle épinière, un ancien volleyeur qui est tétraplégique, auquel je rendais visite, et qui me disait toujours « Dieu est grand, tu sais, Eric ». Je vous ai parlé d'Alain van der Elst, cet artiste bruxellois, hyper doué, mais alcoolique, qui rencontre le Seigneur, qui arrête radicalement l'alcool, qui devient président des alcooliques anonymes de Mons, et qui a une vie resplendissante après. Je vous ai parlé de Thierry Desblet, un chrétien dans la Légion étrangère, à 18 ans, il a dû s'accrocher. Je les ai pas connus, mais je vous ai parlé de Corrie ten Boom, cette Hollandaise, dans les camps de concentration de Buchenwald. Je vous ai parlé de Johnny Erickson, tétraplégique à 16 ans, au témoignage magnifique. Et ces gens resteront des exemples pour moi de foi en milieu hostile, en milieu difficile. Vous avez vos exemples. Et je me dis que si on met vos exemples et les miens, on peut remplir un stade, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Vous êtes environnés d'une nuée de témoins, comme dans un stade. Et nous, on est au milieu et on joue encore le match de notre vie, le match de notre foi. Et dans ce stade, ce sont pas des spectateurs, mais ce sont des supporters qui disent, et je parle d'Hébreux 12, hein, et qui disent, ils disent, allez le bleu, ou les verts, ou les jaunes, ou les rouges, peu importe la couleur. Mais allez-y, on est là, on est passé par là, c'est difficile. Mais on peut vous dire une chose, nous, la nuée de témoins, c'est que ça en vaut la peine. Vivre de l'Évangile et proclamer l'Évangile, ça en vaut la peine, disent ces témoins. Voilà de quoi ranimer la flamme. Notre flamme, ma flamme, celle d'Yvonne, qui partons de l'Église pour d'autres aventures au cœur de l'Évangile, votre flamme, à vous qui restez dans cette belle région azuréenne, pleine de lumière, alors vous n'en avez peut-être pas besoin de ranimer votre flamme. Peut-être que votre flamme n'a jamais été aussi belle, votre feu aussi éclatant, tant mieux. Mais en prévision des heures où elle pourrait bien vaciller, je vous invite à vous ressouvenir des paroles de Paul pour la réanimation de votre flamme, de la foi en l'Évangile et du service de l'Évangile. Et ne laissez pas votre flamme vaciller trop longtemps. Comme la flamme olympique, Dieu dans sa parole nous invite à la ranimer, à la protéger, à tisonner les braises. Alors on pourrait m'accuser d'inciter à la pyromanie. Et ce serait une bonne accusation parce que je termine avec cette parole qu'on dit à Marseille au stade Vélodrome, ce soir on vous met le feu. On vous met le feu de l'esprit dans nos vies, dans l'Église, tout simplement, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.